Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Biotope, votre émission relatant les initiatives émanant d'institutions, d'entreprises, d'associations et de citoyens pour rendre la vallée de la Drôme de plus en plus bio. Et aujourd'hui, nous allons encore nous intéresser au difficile problème de la gestion du prix d'énergie, un poste qui n'a pas forcément vocation à baisser en ces temps-ci. Et pourtant, c'est exactement ce que propose de faire Joachim Hirschler de la société Conseil Énergie Environnement, basée à Saillant. Et la méthode employée a ceci de particulier que ce n'est pas en engageant de coûteux travaux d'isolation ou de remplacement de chauffage ou d'éclairage que Joachim Hirschler va permettre aux sociétés qui se prêtent à l'exercice de faire de 5 à 30% d'économie, mais tout simplement en auscultant le contrat les liant aux fournisseurs énergétiques. Souvent, ces contrats se révèlent obscurs et inadaptés aux besoins réels des entreprises et une simple renégociation de ces contrats suffit souvent à faire baisser de façon perceptible la facture. D'autant que Conseil Énergie Environnement se fait payer sur un pourcentage des économies réalisées. Il n'y a donc aucun risque pour une entreprise de tenter le coup car si Joachim Hirschler ne dégage pas d'économies, alors il ne tarife pas de prestations. Joachim Hirschler, bonjour.
Bonjour.
Souhaiteriez-vous rajouter quelque chose à la rapide présentation de votre entreprise ?
Oui, entreprise, c'est encore un... Pour le moment, je suis encore seul. Bon, ça fait 12 ans que je suis dans le secteur de l'énergie, un conseil des 10 dernières années pour les grands cabinets européens. Et depuis 2 ans, je suis dans le DIY. Bon, c'est un choix délibéré de s'installer en campagne. Et depuis, j'ai lancé une activité, dans un premier temps, avec portée par Solstice, coopérative d'emploi à Cré. Les affaires vont plutôt de bon temps, donc là je suis en train de créer une société dédiée, donc une SRL, pour porter l'activité de conseil en énergie pour les clients, bon, dans un premier temps du DIY, mais aussi plus généralement de la Drôme et Rhône-Alpes Sud, on peut dire, donc Lyon, Grenoble, Valence, Montélimar.
Dites-moi Joachim Hirschler, vous avez un drôle d'accent, vous venez du DIY profond ?
Oui, je viens du sud de Hambourg. Donc c'est une ville à peu près connue en Allemagne du Nord, où j'ai grandi. Je suis arrivé pour terminer mes études à Grenoble. Ça fait une bonne petite trotte maintenant, ça fait 15 ans, plus que 15 ans. Je suis arrivé à Grenoble. Et c'est vrai, depuis, je n'ai jamais tellement décollé de la région. Pour diverses raisons, bon, qualité de vie, plein d'opportunités. Donc voilà, j'ai passé quelques années à Grenoble, tout petit saut à Paris, mais contre ma volonté. Qui n'a pas duré trop longtemps, et ensuite 10 ans à Lyon. Et ben, depuis 2 ans dans les bois.
Alors, si j'ai bien compris, vous avez une façon assez particulière de procéder, puisque vous ne donnez pas véritablement de conseils en matière d'économie d'énergie ou d'utilisation de telle ou telle méthode de chauffage ou d'utilisation énergétique. Par contre, vous donnez des conseils en matière de contrat.
Oui. Oui, en fait, c'est un volet qui est souvent pas beaucoup regardé, parce que quand on parle d'efficacité, amélioration de l'isolation, tout ça, on regarde ça souvent sous un angle citoyen. Par contre, dans un premier temps, c'est quand même, après tout, il faut quand même le rappeler, c'est un volet financier. Parce qu'un investissement pour engendrer les économies en énergie, ça coûte souvent très très cher, avec des retours sur investissement qui sont généralement pas très rapides. D'autant plus quand on parle d'isolation, ça a quand même des retours sur investissement qui durent des années et des années avant qu'on récupère la mise. Donc, pour faciliter cette tâche-là, il y a une volée que, dans mon expérience, c'est vraiment primordial. C'est d'abord voir, est-ce que, en tant que consommateur, est-ce qu'on paye le juste prix pour l'énergie ? Que ce soit l'électricité, le gaz naturel, le propane. Est-ce que le prix qu'on paye, est-ce que c'est le juste prix ? Bon, les économistes ont les grandes théories, c'est quoi qui est le juste prix ? Mais avec mon expérience, je sais assez bien dire si le prix que je constate pour une personne, pour une société ou un centre d'accueil ou un hôtel ou peu importe, pour un client donné, est-ce que c'est le bon prix ? Parce que souvent, il y a des contrats d'énergie qui sont quand même mal paramétrés. Il y a des problèmes. Ce n'est pas les bonnes puissances, ce n'est pas les bonnes versions tarifaires, ce n'est pas des bons contrats. Que ce soit en élec, en gaz naturel ou en propane, hein, c'est général. Donc, dans un premier temps, avant d'engager les clients dans des dépenses coûteuses et très utiles à long terme, hein, dans un premier temps, je travaille avec les clients, avec les consommateurs d'énergie, pour assainir la situation énergétique sur le plan contractuel, pour qu'ils soient sûrs, pour qu'ils soient assurés de ne pas payer plus cher que nécessaire. Ça, c'est la première étape.
Donnez-nous quelques exemples de mauvais contrats qu'on aurait pu passer avec un fournisseur d'énergie.
Oui, en fait, je travaille peu avec les tarifs domestiques, mais simplement pour donner un exemple qui soit compréhensible à peu près tout le monde, j'espère, c'est par exemple les air creusers pleins. Souvent, on constate pour des foyers, ils se mettent en air creuser pleins, et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas toujours rentable. Pour être rentable en air creuser pleine par rapport à un tarif classique, il faut avoir une bonne partie de la consommation pendant les heures de nuit. Et les heures de nuit commencent que à partir de 22h. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas à partir de 18h. Donc parfois, je constate dans l'entourage que les consommateurs se mettent en air creuser pleine, mais effectivement, ils perdent de l'argent par rapport à la version de base. Pour un domestique, pour un foyer, ce n'est pas bien grave, hein, ça joue sur quelques dizaines d'euros. Mais quand vous mettez ça à plus grande échelle pour un bureau, pour une société, pour une entreprise, hein, cette différence peut chiffrer en centaines, voire un millier d'euros, hein, avec un mauvais choix de paramètres. Après, ça peut se poser la question pourquoi le fournisseur ne réagit pas. Bon, le premier rôle du fournisseur, c'est de fournir d'énergie. Son premier rôle, c'est ne pas de fournir du conseil sur l'adéquation des tarifs. Hein. Donc, c'est ça que je fournis à mes clients. Je regarde avec eux ensemble, est-ce que le tarif applicable, est-ce que c'est vraiment le mieux adapté à ses besoins?
Et ça, est-ce que ça justifie donc votre intervention? Est-ce que les sociétés ne sont pas capables de s'en apercevoir par elles-mêmes?
Sans vouloir faire un grand discours, mais quand vous regardez la charge de travail de mes clients dans les structures dans lesquelles ils ont leurs responsabilités, si on leur demande encore maintenant de faire des études approfondies de leur d'un marché qu'ils ne connaissent pas du tout, le marché d'électricité, le marché de gaz naturel, le marché de propane, et d'amener des corrections correctives. Bien sûr, ils devraient le faire, mais ils n'ont pas le temps. Et pour moi, ça fait maintenant 12 ans que je suis dans le domaine de conseil en énergie, et je me rends compte que les clients, ils ont de moins en moins le temps de le faire. Les marchés deviennent à la fois de plus en plus compliqués, avec l'ouverture du marché, la libéralisation, tous les taxes et charges qui augmentent, ça devient beaucoup plus dynamique encore qu'il y a quelques années, donc beaucoup plus mouvant, beaucoup plus difficile à cerner. Et en même temps, les salariés sont simplement plus chargés aujourd'hui. Je vois ça partout, que ce soit une entreprise, que ce soit une association, que ce soit une SCOP. Il y a la pression qui augmente partout, il y a plus de choses à vérifier, plus de choses à gérer, moins de personnes, moins de personnel. Donc aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, je constate que les clients ils sont encore moins enclins qu'avant de vérifier, de s'assurer que les contrats soient bien adaptés. Pourtant, le contexte du marché devient plus compliqué. Donc c'est une divergence qui est vraiment néfaste pour le consommateur individuel.
Les contrats avec les fournisseurs énergétiques sont souvent complexes, voire illisibles.
L'isibilité des contrats, déjà, regardez seulement une facture d'énergie, je veux dire, la plupart des consommateurs d'énergie, ils ne comprennent pas à 100% la facture d'énergie qu'ils reçoivent pourtant tous les mois, mois après mois. Et là, je parle des foyers, mais pour les clients professionnels, hein, ce n'est pas si différent. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'une grande société qui comprenne bien leur facture d'électricité, hein. Donc ça, c'est déjà la première chose. Tout d'abord, il faut comprendre la facture. Et là, j'aide mes clients à vraiment... Je fais un travail de formation un peu, de leur expliquer en quoi consiste la facture. Quand vous parlez du contrat, parfois les contrats sont tellement illisibles que même nous, en tant que spécialistes, consultants d'énergie, on a vraiment du mal à comprendre un contrat. Donc quand vous prenez la fameuse Mère Martin, qui connaît assez peu le domaine d'énergie, là, les contrats d'énergie aujourd'hui sont de plus en plus complexes. C'est un peu la même divergence dont j'ai parlé. Les contrats deviennent de plus en plus complexes, le contexte devient de plus en plus complexe et en même temps, on n'a pas plus de ressources qu'avant pour comprendre cette complexité. Donc le consommateur individuel, il est de plus en plus seul sur le champ. Et c'est là où nous intervenons. Nous, on peut dire on épaule le consommateur individuel pour lui donner plus de compréhension, plus de capacité d'action pour corriger et améliorer les contrats.
Et là, votre intervention peut être véritablement pertinente dans le sens où ils peuvent vraiment faire des économies d'énergie importante. Vous constatez dans les faits, dans votre expérience, que vous permettez à la structure d'économiser un pourcentage non négligeable sur leur facture.
Oui, oui, oui. En fait, en énergie, c'est pas comme dans d'autres domaines, peut-être en téléphonie, où c'est assez rare d'avoir des très, très grands écarts. Mais souvent, pour mes clients, je constate qu'il y a entre 5 et 20% à améliorer, parfois même plus. Hein. Donc parfois, ça peut être significatif. Quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas une grande somme, on a un fonctionnement un peu particulier, nous sommes prêts à travailler uniquement sur le partage des gains. Donc ça veut dire, si jamais un client il gère bien, et parfois ça arrive, hein, mais c'est assez rare, il gère bien son contrat, on ne va pas trouver une amélioration tout de suite, donc il ne va rien nous payer. C'est uniquement une fois qu'on trouve un potentiel d'amélioration, une fois que les clients sont d'accord, on met cette amélioration en place, et une fois cette amélioration contractuelle porte ses fruits, donc une fois le coût baisse, c'est là on prend une part de ses coûts. Donc on peut dire, quoi qu'il en soit, soit il n'y a rien à gagner, les clients n'auront rien payé, soit il y a quelque chose à gagner et on peut dire c'est le fournisseur qui paye d'une certaine façon. C'est jamais les clients qui payent. Donc on peut dire tous nos clients sont très contents parce que soit on apporte quelque chose, ils ont de l'argent dans leur poche au lieu de dans la poche du fournisseur, soit on apporte peu et ils ont confirmation comme quoi tout va bien. Oh ouais, ça arrive, hein, ça arrive. Pas trop souvent, mais ça arrive.
Ouais, c'est comme le médecin chinois, on ne paye que quand ça va bien.
Oui, c'est ça, on peut dire, on n'est pas là pour rattraper le coup quand tout va mal, on est là pour prévenir, pour éviter qu'il y ait une sortie du virage. Donc c'est du préventif.
Une fois votre expertise effectuée pour savoir si le contrat était adapté ou non aux besoins de l'entreprise, vous arrive-t-il de donner d'autres conseils plus pratiques en termes d'économie d'énergie, soit sur l'isolation, soit sur le chauffage, soit sur la façon d'éclairer ?
Oui, oui, non, c'est une bonne question parce que, comme je dis, il y a deux volets. Il y a le volet, on peut dire, financier, contractuel d'abord, s'assurer que les clients ne payent pas trop cher pour l'énergie. Et après, c'est immense travail d'isolation, de réduire ses besoins, de travailler sur la sobriété, d'avoir une utilisation plus raisonnée, peut-être de l'énergie aussi. Et ça, effectivement, ça, c'est le volet financier, contractuel. Ça, c'est la porte d'entrée. C'est un peu l'ordre-œuvre, on peut dire. Et à travers de ça, les clients, souvent, ils se rendent compte que pour l'énergie, ils payent beaucoup plus cher qu'ils ne le pensent. Qu'ils payent beaucoup plus cher, parce que souvent, l'énergie, c'est un peu relégué en deuxième rang. Donc, tout d'abord, ça leur donne la vision du vrai coût en énergie. Et à partir de là, ils ont souvent une assez bonne motivation d'engager des travaux dans leur structure respective, que ce soit en industrie ou en tertiaire. Hein. Il y a quand même énormément de choses à faire. Et souvent, déjà avec des investissements assez réduits au début, on peut quand même créer des économies d'énergie assez importantes. Après ça, pour aller plus loin dans certains problèmes parfois très techniques, là je travaille avec d'autres structures dans la vallée, en Rhône-Alpes, qui prennent ensuite le relève, qui sont vraiment très axés sur certains points techniques, bon, même si j'ai une formation scientifique. Et technique, mais ce n'est pas exactement ma tasse d'été, donc je préfère donner le relais à des structures avec qui je coopère sur ce plan-là. Pour les clients, c'est aussi l'avantage qu'ils sont sûrs d'avoir une vision homogène de la problématique. Donc tout d'abord, c'est, comme je dis, assainissement initial du dossier sur le plan financier, contractuel. Et ensuite, il y a une fluidité vers une démarche plus technique. C'est que les deux ensemble qui vont gérer les vraies économies dans la durée, hein.
Aujourd'hui, hein, sans verser dans des considérations d'ordre politique et général, il est un fait que c'est le moment de se pencher sur la question car les prix du pétrole ne vont sûrement pas se mettre à baisser d'ici peu.
Oui, en fait, tout le monde tape en ce moment sur le pétrole, mais de manière générale, l'énergie, je compare ça à une tube de dentifrice. Les prix d'énergie, c'est comme dentifrice. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de remettre dentifrice dans une tube, hein. C'est très difficile, ça va toujours dans un seul sens. Et avec les prix d'énergie, c'est pareil. Parfois, les petites baisses tendancielles, mais de court terme. Mais les prix d'énergie, et là, il faut se préparer, vont augmenter. Ils vont augmenter, ils vont encore beaucoup augmenter. On pense qu'on a déjà beaucoup vu, mais c'est probablement que le début du mouvement. Regardez, l'an 2000, on était à même pas un cinquième du prix aujourd'hui. À l'époque, c'était inimaginable d'avoir une baril à 100 dollars. Inimaginable. Les prix de l'électricité vont augmenter, le coût de gestion du nucléaire sera de plus en plus répercuté sur les clients. On va payer pour le démantèlement, pour le stockage définitif des déchets qui sont produits tous les jours. Ça va engendrer des coûts énormes, énormes, énormes. Une étude très, très prudente qui était publiée il y a quelques semaines parle en France, sous 4 ans, d'une augmentation pour les tarifs bleus de 30%, l'ordre de 30%. Tarifs bleus, ce sont des tarifs de monsieur, madame, tout le monde. Donc, que ce soit le pétrole, que ce soit l'électricité, que ce soit le gaz naturel aussi, qui est relié au pétrole, d'une manière ou l'autre, tout ça, ça augmente. Tout ça augmente et d'où l'importance de prendre des actions aujourd'hui pour ne pas se trouver dos au mur demain.
D'autant qu'il y a un effet de ciseau avec une stagnation des revenus des citoyens. Donc entre le renchérissement des matières premières, une stagnation des revenus, avez-vous l'impression que les pouvoirs publics ont impulsé une dynamique pour aider à une véritable transition énergétique ?
Pouvoir public, oui, et localement, c'est aussi une des raisons pourquoi je suis venu ici. Au niveau Biovallée, il y a quand même une vraie impulsion. C'est une dynamique qui est malheureusement encore assez rare en France. Dans d'autres pays, on en trouve un peu plus. Mais en France, on ne fait pas partie de l'élite au niveau énergie. Hein, on est un peu à la traîne. Donc au niveau Biovallée, ici, dans nos collectivités, dans la vallée, il y a quand même une activité. Hein, il faut se dire, ils essayent de mettre en place les choses. Si en pouvoir public, on inclut aussi l'État. Bon, moi, je ne suis pas français, donc je ne peux pas taper sur l'État français. Hein. Mais pour moi, c'est un État qui assume presque rien au niveau énergie. Il nous fait payer l'énergie, il nous dit que c'est moins cher, mais il travaille très, très, très peu sur l'efficacité. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, parce que les ministres, ça change régulièrement. Quand je vois une vraie activité au niveau énergie, je vois ça au niveau local, au niveau régional. La région Rhône-Alpes, ils ont quand même une démarche très volontaire en énergie. Biovallée, bon, département, ils sont plus impliqués, mais là où je vois vraiment une lacune énorme, hein, c'est au niveau État. Là, État assume, à mon avis, actuellement, pas du tout la responsabilité qui devrait.
Alors, Joachim Hirscher, tout à l'heure, hors antenne, juste en préparant cette émission, vous m'avez raconté une petite anecdote qui était un petit peu effrayante. Est-ce que vous pourriez nous la raconter sur les histoires de survol par des avions pour repérer les zones chaudes et froides ?
Oui. Bon, comme ça se fait partout, il y a quelques années, on commençait à effectuer du survol des villes pour réparer des zones chaudes, entre guillemets. Donc ça veut dire des bâtiments très peu isolés pour voir où on peut engendrer assez vite des économies. Aujourd'hui, quand on effectue les mêmes survols, on ne regarde pas forcément pour regarder où on peut encore engendrer des économies, même si c'est encore nécessaire, mais on regarde aussi où on trouve des zones froides. Mais une zone froide, ce n'est pas parce que c'est très bien isolé, mais c'est parce que c'est peu chauffé, ou ça veut dire plus chauffé. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où un nombre important des citoyens, et ça se chiffre dans les millions en France, c'est vraiment des grands chiffres, hein, qui sont ce qu'on appelle, en termes techniques, un peu en précarité énergétique. Ça veut dire qu'ils n'ont plus les moyens de se chauffer, de se chauffer dignement, correctement. Donc ça veut dire avoir une température de au moins 18-19 degrés. Et en plus, ce qui est dangereux avec la précarité énergétique, c'est que ça frappe ceux qui ont déjà peu de moyens. Parce que quand ils ont peu de moyens, ils ont peu de moyens d'investir. Souvent, ils ne sont pas propriétaires. Ils ne peuvent donc même pas investir dans leurs apparts. Ils ont souvent des appareils de chauffage pas très performants. Et donc, ça veut dire que les gens déjà revenus modestes sont encore pénalisés beaucoup plus que les autres par les prix élevés d'énergie. Et ça mène à une situation où aujourd'hui, un nombre, on sera surpris de voir combien le nombre est grand, mais le nombre d'habitations en France, ils sont quasiment plus chauffés ou très faiblement chauffés. Et ça, c'est quand même inacceptable, parce que je veux dire, le droit de chauffer, c'est quand même c'est fondamental. Ce
n'est pas inscrit dans la Constitution ?
Non, ce n'est pas inscrit dans la Constitution, mais je ne suis pas spécialiste de l'habitat, mais à ma connaissance, ça fait partie de la définition de l'habitat digne, d'avoir une température minimale, d'autant plus quand il s'agit des enfants, parce que là, quand même, ça devient dur.
Oui, mais cette situation concerne vraisemblablement les logements individuels parce que les bailleurs collectifs comme les offices HLM ne peuvent pas fournir de logements à ce point ou mal chauffés ou très peu efficaces énergétiquement. Est-ce que les offices HLM ont fait des efforts du point de vue de l'efficacité énergétique de leurs logements ?
Bon, il faut dire que les HLM, les organismes d'HLM font déjà beaucoup d'efforts et ont déjà beaucoup fait d'efforts, que ce soit ici dans la Drôme ou d'ailleurs. D'ailleurs, quand on regarde sur les salons d'énergie, sur les congrès, souvent, ce sont des structures de HLM qui sont exemplaires, hein, qui ont énormément investi dans le parc immobilier, qui ont déjà entamé des travaux très, très lourds d'isolation, parce que l'isolation, ça coûte extrêmement cher, qui ont prolongé la vie, la durée de vie d'un bâtiment et qui font vraiment baisser le coût de des occupants. Le coût pour les occupants, pour les locataires. Donc, il y a, comme je dis, en France, on n'a pas très avancé, mais les HLM, souvent, ils ont fait des vrais efforts. Après ça, à travers mon activité, je travaille aussi avec ce type d'organisme pour réduire, après l'isolation, réduire aussi le coût contractuel. Parce que le même raisonnement s'applique. Hein. même une fois les travaux effectués, il faut quand même voir si les tarifs sont adaptés. Et c'est là où ça rejoint un peu le sujet de la précarité énergétique. D'une part, la précarité énergétique vient d'une mauvaise isolation, d'une surconsommation, etc. Mais de l'autre côté, une partie de la précarité énergétique est aussi due aux contrats qui ne sont pas bien adaptés. Parce qu'un contrat pas bien adapté occasionne des surcoûts qui, in fine, seront payés par les locataires. Donc là, on revient aussi dans le même cas de figure, précarité énergétique, mais le volet contractuel, financier, on peut dire. Même si c'est mineur par rapport aux travaux d'isolation, qui sont quand même dominants. Mais je souligne toujours, pour accompagner un vrai travail de réduction du coût en énergie, il y a le volet technique, isolation, etc., et il y a le volet contractuel, y inclus pour les locataires, hein, pour éviter la précarité énergétique.
Et localement, sur le Diwa, qu'est-ce que vous avez pu constater avec votre expérience? Y a-t-il des tendances qui se dessinent?
Oui, en fait, j'étais pendant 10 ans à Lyon, je travaillais à Lepardieu, donc dans un contexte économique très très différent de Diwa, et en arrivant au Diwa, j'ai quand même beaucoup appris. Quand on parle aujourd'hui de la transition énergétique, et heureusement, on commence à en parler, la nécessité d'avoir des sources plus renouvelables, de réduire nos consommations, d'avoir des modes d'approvisionnement plus locaux. Ici, dans le Diwa, je pense qu'on a un défi qui est plus important que dans d'autres territoires encore, parce qu'on est à la fois assez éloigné, donc parfois on fait des grands trajets quand même, en kilomètres. Ici, en moyenne, on a beaucoup de kilomètres à faire, même si on essaye de réduire quand même. Et en même temps, on a des salaires qui sont plutôt faibles par rapport aux agglomérations. Donc ça veut dire qu'on risque d'être pris entre, comment on dit en français, marteau et l'éclume, entre les prix d'énergie qui vont augmenter de plus en plus, donc le coût de transport par exemple qui va augmenter de plus en plus, et les salaires qui ne sont pas énormes et qui ne vont certainement pas suivre. Nos salaires ne vont pas augmenter parce que le prix du fuel augmente. Que ce soit le fuel pour le transport, ça peut être le fuel pour la maison, ça peut être le propane pour la maison, ça peut être même le bois. Le bois augmente aussi doucement, il ne faut pas se leurrer. Donc on a un double défi ici dans le Diwa. Je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger ça, d'avoir cet effet d'une plus de pression, plus de coûts qui sont dus à notre spécificité de vallée, et en même temps les salaires qui ne permettent pas de tout absorber. Donc c'est désagréable, ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas réjouissant dans un premier temps. Mais je pense qu'une fois on s'y prend correctement, tout le monde peut être gagnant. On peut avoir des modes de chauffage plus sobres, plus agréables. On peut avoir un transport plus agréable, peut-être plus collectif. J'ai toujours surpris que la ligne ferroviaire ne soit pas plus exploitée. La plupart de la journée, je le vois vide. Je me demande pourquoi est-ce qu'un petit train léger, un train de tram qui fait l'Auriol, Luc-en-Diwa, ça doit coûter bien cher, hein. Et ça fait déjà une partie des trajets en voiture, hein. Il ne faut pas oublier, chaque kilomètre, quand on calcule correctement, ça coûte presque 40 centimes. Hein.
Par voiture ?
En voiture.
Par voiture donc ?
Par voiture. Bon, si on est vraiment grand bricoleur, on change les plaquettes de frein lui-même, peut-être un peu moins. Hein. Mais quand on fait un calcul économique, on est tôt ou tard, on arrive à 40 centimes par kilomètre. Hein. C'est un paquet. Hein. Ça veut dire un aller-retour dit créé, hein, ça chiffre. Hein. Ça chiffre dans le bilan. Et si on peut remplacer ça, même partiellement, par des moyens collectifs qui coûtent toujours moins cher, hein, même sur le plan économique, on aurait gagné. Et sur le plan environnemental, encore plus. Hein.
Et oui, apparemment, si la transition énergétique est indispensable, ça ne veut pas dire qu'elle est simple.
Ben, c'est mon expérience de 12 ans. Hein. L'énergie, c'est un sujet difficile. Et il y a quelques années, personne ne voulait entendre parler. C'était un sujet de spécialiste. Maintenant, ça devient une préoccupation du grand public. Même les pouvoirs publics s'y mettent de plus en plus. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas faire dans le pessimisme. Il y a des défis, il y a des défis énormes, parce qu'il va falloir changer tout notre système énergétique en France, en Europe et dans le monde, tôt ou tard. Mais on peut le faire, et ça c'est important. Et souvent, ce que je constate ici, en France, en Rhône-Alpes, on est encore assez frileux. Mais un approvisionnement en électricité renouvelable est possible. On peut produire du biogaz pour faire tourner nos chaudières. On peut y arriver, même avec un gain de qualité de vie. Et surtout pas faire dans le pessimisme dans ces domaines-là.
Faut y aller quoi ? Faut se remonter les bretelles ?
Faut se remonter les bretelles et adapter à un contexte français, j'aurais tendance à dire, il ne faut pas attendre un décret d'application qui tombe de Paris, hein, mais il faut aller entre nous, pour nous, et le faire.
Très bien, mais Joachim Hirschler, merci de vos lumières en matière énergétique. Ça fait donc 12 ans que vous travaillez dans l'énergie, donc vous savez de quoi vous parlez, c'est tant mieux. Et merci de nous en faire profiter.
Pas de quoi, merci à vous,
merci.
À bientôt.
Au revoir.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Je suis aujourd'hui avec monsieur Paul Baffert, directeur adjoint du centre hospitalier de Die, qui a eu affaire à Joachim Hirschler et son entreprise Conseil Énergie Environnement. Monsieur Baffert, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vous qui vous êtes chargé de négocier avec monsieur Hirschler?
Tout à fait. J'ai été contacté par monsieur Hirschler qui m'a présenté sa démarche qui m'a paru très intéressante.
Comment avez-vous procédé en fait?
Eh bien, monsieur Hirschler me présentait en détail quelle mission il pouvait accomplir auprès du centre hospitalier. Et nous avons conclu un contrat de partenariat que j'ai fait valider évidemment par le trésorier public de l'établissement.
Concrètement, il a passé je ne sais combien de dizaines d'heures sur le contrat?
Il avait certainement déjà de l'expérience et il m'a présenté un modèle de contrat que nous avons adapté puisque nous sommes soumis aux règles de la comptabilité publique. Donc il a passé sûrement quelques heures là-dessus. Et ensuite, nous avons pu arriver à un document final que nous avons signé.
Qui était bien éloigné du modèle initial?
Non, pas tellement quand même, puisqu'il avait déjà travaillé notamment avec des collectivités locales.
Alors, est-ce que ça a bien fonctionné ou est-ce que ça posait quelques petits soucis?
Non, ça a bien fonctionné. Il n'y a pas eu de problème. Nous avons pu mener à bien cette mission depuis donc début 2012 et qui est encore en cours, au moins pour cette année.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça vous a rapporté quelque chose?
Effectivement, cette mission porte sur les économies réalisables, essentiellement sur la facturation concernant les dépenses d'énergie. Et en ce qui concerne le centre hospitalier, plus particulièrement les dépenses d'électricité et de gaz. Le budget électricité du centre hospitalier est de 100 000 euros environ annuellement et celui du gaz de 50 000 euros. Sur l'électricité, nous avons pu réaliser une économie de 1 000 à 2 000 euros. Par contre, sur le gaz, nous avons pu faire une économie estimée à 8 000 euros sur, donc, je le rappelle, 50 000 euros annuels.
Comment s'est payé monsieur Hirschler sur...
Alors le mode de rémunération de monsieur Hirschler après donc négociation, hein, il y a une part fixe annuelle, un petit forfait, et l'essentiel de sa rémunération porte sur 25% des économies réalisées pendant une durée de 2 ans suivant ses préconisations.
C'est-à-dire qu'en fait si vous gagnez 8000 euros plus 1000 l'électricité plus le gaz, donc vous allez en perdre 25% pendant 2 ans.
Exactement. Déjà, c'est un gain de 75% environ. Et à terme, en plus, ces préconisations restent valables pour la suite. C'était essentiellement des renégociations de contrats, de marge des fournisseurs sur les contrats, notamment.
Globalement, vous êtes satisfait de cette collaboration?
Très satisfait. Et je sais d'ailleurs que M. Schler, c'était une de ses premières mission dans un centre hospitalier et depuis il a contacté d'autres centres hospitaliers et pas des moindres puisque notamment il a conclu un contrat, je sais, avec les Hospices Civils de Lyon, donc le CHR-CHU de Lyon.
Alors si d'aventure quelqu'un était intéressé pour reproduire cette expérience, qui pourrait-elle contacter?
Alors c'est moi-même, donc Paul Baffert, directeur adjoint au centre hospitalier de Die.
Au numéro qu'on peut trouver donc dans l'annuaire.
Absolument.
Monsieur Baffert, merci.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
Biotop. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Un programme soutenu par BioValley.